Hello les distordus, ici Seb de Distorsion. Avant de commencer, on veut vous parler de la nouvelle saison de Hanté, un balado de fiction d'histoires paranormales réalisé par nos amis de Transistor qui vient tout juste de sortir.
La série est très immersive et nous fait vivre les événements comme si on y était. La région de l'Outaouais regorge de phénomènes étranges. Alors que la première saison était concentrée sur des histoires paranormales du vieux Elmer, cette saison-ci, l'équipe explore la région du Pontiac et son allure de Far West.
Si vous aimez Distorsion, vous allez assurément aimer Hanté. Les deux saisons sont maintenant disponibles sur la plateforme de Radio-Canada Audio, juste à temps pour la saison de l'horreur.
Et maintenant, bonne écoute! Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur...
On the 4th of December, 2005, the body of a blonde, 30-year-old woman was discovered on Prestwick Beach in Scotland.
For a split second, he was thinking, there is a girl there sunbathing. And then directly he understood that that's not possible, that something else has happened here.
Des histoires étranges de l'ère numérique. En 2005, le corps d'Annie Borgeson, une Suédoise âgée de 30 ans en voyage en Écosse, est retrouvé sur la plage de Prestwick.
En moins de 24 heures, les enquêteurs concluent au suicide par noyade. Mais une tonne d'indices étranges pointent vers quelque chose de beaucoup plus gros.
Alors que les traces numériques s'effacent derrière elle, le scénario du meurtre prend de plus en plus d'ampleur. Est-ce qu'Annie était suivie par un joueur de rugby mystérieux?
Encore pire, est-ce que la CIA pourrait être impliquée? Suivez-nous alors que nous tentons de faire la lumière sur cette mort inexplicable.
Sébastien Lévesque, comment vas-tu aujourd'hui?
Ça va bien et toi, Émile Gauthier?
Ça va très bien. Deuxième épisode de notre saison 9. Le marathon est commencé. On remercie nos nouveaux auditeurs et auditrices. Vous êtes nombreux justement à apparaître sur nos réseaux sociaux, sur notre groupe de discussion sur Facebook et beaucoup de nouveaux membres Patreon aussi qui ont rejoint notre groupe. Donc, merci à vous de votre écoute. Merci de votre soutien. Puis ce soir, on a une histoire assez capoté en bon québécois, comme on pourrait dire, Seb. Moi, j'aime les histoires qui semblent être plutôt simples, mais qui, au fond, quand on commence à creuser, deviennent extrêmement compliquées.
Absolument. Ah oui, puis cette histoire-là, c'est parfaitement ce que tu dis, parce que même aux premiers abords, quand je commençais à lire sur le cas, j'étais « Ah ouais, on peut-tu vraiment, tu sais, y a-tu quelque chose à dire ?» Tant que ça, mais finalement, il y a beaucoup de choses à dire.
Oui, le corps d'une jeune femme suédoise retrouvée sur la plage de Prestwick, en Écosse, Annie Borgeson, une jeune femme de 30 ans en pleine santé, qui était en forme athlétique aussi. Les policiers concluent au suicide en moins de 24 heures, donc très rapidement. Mais là, il y a plein d'autres histoires. Il y a une confusion au niveau de son nom avec quelqu'un d'autre. Il y a place à même des théories du complot autour de ça. Et il y aurait peut-être même un mystérieux stalker, en fait, qui peut-être suivait Annie. Donc, il y a plein d'histoires comme ça qui vont vous rendre encore plus confus à la fin qu'au début. Mais Distorsion, on a tout lu, on a tout vu, on a tout écouté à propos de cette histoire-là. Il y a eu un documentaire aussi sorti cet été, à l'été 2023, donc très récemment, au sujet de cette histoire-là. Donc, on a quelques updates, même si c'est une histoire de 2005. Vous allez voir, c'est passionnant et c'est une histoire un petit peu moins connue, qu'on a moins entendu parler, du moins au Québec et au Canada. Et qu'est-ce qu'on boit, Seb, pour attaquer cette histoire?
Oh oui, on boit une de mes bières préférées. On boit la Mixtape de 5e Baron,
oui.
En fait, qui est une microbrasserie du vieux Elmer à Gatineau. Donc,
shout-out Elmer.
Oui, exact. On les aime beaucoup. Évidemment, c'est une IPA de style Nord-Est 6.5. Elle a des houblons différents, des Enigma et Galaxy. Puis ce que je voulais vous parler, c'est leur mojo de cette bière-là. Puis ils disent, tôt dans leur carrière, certains artistes musicaux distribuent un mixtape de leurs pièces dans le but de se faire découvrir.
Oui.
C'est avec cet esprit que nous avons décidé de lancer notre mixtape comme première bière.
À chaque fois que j'en vois à Montréal, j'en achète.
Oui.
Parce que des fois, les brasseries de Gatineau se rendent pas partout. Donc,
non, exact.
On est très content quand on trouve du 5e Baron à Montréal.
Oui, mais ces temps-ci, ça va bien. Je trouve qu'il y en a régulièrement. Donc, c'est une très bonne nouvelle.
Shout-out à Jean-François Tremblay qui nous offre cette tournée de bière. Et aussi, on a un shout-out sur Apple Podcast qui nous vient de Finch, de la Suisse,
oui.
Qui nous donne une review 5 étoiles. Il nous dit « Ici, la Suisse, I ou elle, en fait, dur à dire. Oui, messieurs, on aimerait vous voir en Suisse. » Yes, ben oui, on a plusieurs auditeurs et auditrices de la Suisse. Hein. On a même des horlogers et horlogères de chez Rolex. Donc, shout-out Rolex. Il nous dit, ou elle nous dit, « Ce petit pays n'a autant de true crime que le continent américain, mais néanmoins regorge d'histoires bien weird, comme le fou de Bienne, qui a eu même les honneurs d'un film dernièrement.
Wow. »
La tuerie de Chevaline, c'est vrai, c'est sur notre liste de sujets,
ben
peut-être
exact,
qu'on va en parler,
oui.
À la frontière française, et même les horreurs de l'OTS, donc l'Ordre du Temple solaire, qu'on a eu au Québec aussi.
Oui, exact.
La personne continue à nous dire « La présence de nombreux diplomates, son cosmopolisme, sa nature sauvage, voire même la présence de multimillionnaires bien barges, confère à la Suisse bien des histoires aux antipodes de son image bien policée.
Oh. »
Donc, shout-out à toi, Finch. Ça serait le fun d'aller en Suisse, justement, là, faire un petit tour.
Dis, mais ça, une petite tournée.
Exactement. Si les Suisses, levez-vous là, et manifestez-vous, si vous voulez qu'on passe dans votre cher pays la prochaine fois qu'on va en Europe. Ça pourrait être bien, bien agréable. Aussi, on a un after show, mon cher Seb, pour nos abonnés Patreon. Et là, j'ai trouvé une histoire un petit peu plus légère que celle de Annie Borgeson, mais qui est tout autant empreinte de mystère.
Oui.
C'est le mystère des pieds humains sur la plage de Tofino.
Mm-hmm.
Vous savez, hein, il y a une couple d'années, au fil des années, on a trouvé plusieurs pieds humains dans des chaussures, pas juste à Tofino, mais sur la côte ouest, en fait, du Canada et des États-Unis.
Mm-hmm.
Donc, mystérieux, des pieds sans corps, avec encore des chaussures, qui se retrouvent sur la plage.
Ouais.
Qu'en est-il de cette histoire-là? C'est depuis 2007, je crois, qu'on retrouve des pieds.
Ouais.
On parle de dizaines de pieds qui ont été retrouvés. Donc, on va faire le tour de ce sujet-là en after show. Ça, c'est pour nos abonnés Patreon qui vont avoir la chance de le découvrir. D'ailleurs, il y a plein d'after show qui vous attendent, un par épisode, pour nos nouveaux abonnés Patreon. Moi, si j'étais un nouvel abonné Patreon en ce moment, je triperais parce que c'est le meilleur moment.
Ah, c'est Noël, là. C'est...
Oui, t'arrives, puis il y a déjà 3-4 saisons de sortie, il y a plein de bonus. Donc, ben oui, on remercie nos abonnés qui sont là depuis le début, qui, eux, ont commencé avec zéro bonus.
Oui, exact, des real,
ça, c'est
des OG.
Vraiment des real. Et donc, je pense qu'on en a assez dit, Seb. Est-ce qu'on est prêt à se lancer dans la mort inexplicable d'Annie Borgeson?
Oui, mais avant de nous lancer dans le sujet d'aujourd'hui, Émile, il est important de mentionner notre partenaire NordVPN qui sponsorise l'épisode d'aujourd'hui. Dans une ère où la vie numérique est omniprésente, la protection de nos données en ligne n'a jamais été aussi cruciale. NordVPN est là pour nous aider à naviguer en toute sécurité en préservant la confidentialité de nos échanges numériques.
Totalement d'accord, Seb. Avec toutes les menaces en ligne, il est plus important que jamais de protéger sa vie privée et ses informations personnelles. NordVPN vous permet de naviguer sur Internet en toute sécurité, en masquant votre adresse IP et en cryptant vos données. Mais surtout, moi ce que j'aime, c'est que peu importe où on est dans le monde, on peut avoir accès à tous les contenus en ligne comme si on était à la maison.
Oui.
Donc, sur les sites de streaming comme Netflix ou Disney+, ils ont tous du contenu qui est géobloqué et du contenu exclusif selon les régions. Mais avec NordVPN, ce contenu peut être facilement débloqué, tout comme certains sites web de nouvelles ou de médias.
Mmh.
Puis d'ailleurs, pour cet épisode-ci, là, précisément, j'ai dû utiliser NordVPN pour faire de la recherche auprès de sites web en Écosse qui, malheureusement, étaient bloqués au Canada.
OK. Ah, mais utile. Ça, c'est une bonne nouvelle, Émile, pour nos auditeurs, parce que nous avons une offre spéciale qui est valable jusqu'au 18 octobre. En utilisant notre lien nordvpn.com/distorsionvpn, vous obtiendrez une réduction substantielle sur votre abonnement NordVPN plus 4 mois gratuits en bonus. Rappelez-vous, il y a une garantie de remboursement de 30 jours, donc si vous n'aimez pas ça, si ça vous ne satisfait pas, il n'y a aucun problème, vous pouvez l'essayer sans risque.
Alors Seb, est-ce que maintenant on est prêt à plonger dans l'épisode d'aujourd'hui?
Oh oui, monsieur!
Et avec toute la tranquillité d'esprit offerte par NordVPN. Nous sommes le 4 décembre 2005 à 8h23 du matin sur la plage de Prestwick. Prestwick est situé sur la côte ouest de l'Écosse, le long de la côte de la mer d'Irlande, à environ 30 km au sud-ouest de Glasgow. Elle fait partie de la région historique d'Ayrshire. Elle n'est pas trop loin de l'aéroport non plus. Prestwick Beach est une plage de sable fin qui s'étend sur environ 2 km le long de la côte. Elle est réputée pour être un endroit pittoresque et populaire pour les activités de plage, notamment la baignade, les promenades et les pique-niques. C'était aussi un berceau du golf, un joyau dans le royaume du Fairway. En 1851, le Prestwick Golf Club voit le jour et façonne l'histoire du golf. Ses parcours légendaires avaient accueilli le premier Open britannique en 1860, donnant naissance à une tradition vieille de plus d'un siècle. Prestwick était une évasion balnéaire pour les voyageurs en quête de repos et de détente. Les rues bordées de maisons géorgiennes abritaient d'authentiques pubs écossais, des restaurants proposant des plats de fruits de mer frais et des boutiques artisanales. Non loin de là, l'aéroport de Prestwick était un autre témoin de l'histoire. Ses pistes avaient vu décoller les pionniers de l'aviation et continuaient d'accueillir des vols commerciaux et cargos reliant Prestwick au reste du monde. Les paysages environnants étaient tout aussi envoûtants que la plage. Des falaises majestueuses se dressaient le long de la côte, offrant des vues panoramiques sur la mer d'Irlande. Les promenades côtières invitaient les voyageurs à s'émerveiller devant la beauté naturelle de la région. Prestwick Beach était bien plus qu'un simple endroit sur la carte. C'était une destination chargée d'histoire, de beauté naturelle et d'une ambiance balnéaire chaleureuse. Mais à partir de ce matin de décembre 2005, la plage paradisiaque ne sera plus jamais la même. En décembre, Glasgow, située en Écosse, connaît un climat typiquement froid et humide, caractéristique de la région. Les températures en décembre à Glasgow sont généralement fraîches, avec des maximales moyennes autour de 7 à 8 degrés Celsius. Et des minimales autour de 2 à 3 degrés Celsius. Okay. Donc ça descend quand même assez bas.
Oui, oui.
Il n'est pas rare que les températures descendent en dessous de zéro la nuit. Bien que la neige ne soit pas aussi fréquente à Glasgow qu'en certaines autres parties de l'Écosse, il est possible de voir la neige en décembre, en particulier vers la fin du mois lorsque les températures sont plus froides. Cependant, les chutes de neige importantes sont rares, et ce matin de décembre 2005, il n'y avait pas de neige sur la plage. À 8h23 du matin, David Keenan, un habitant de la région, promène son chien sur la promenade le long de la plage comme il fait chaque matin. Il n'y a presque personne à cette heure en ce temps de l'année. En marchant, il aperçoit des pieds sur la plage du haut de la promenade où il marche. Il descend et découvre le corps inanimé d'une femme, face vers le sol sur la plage, tout habillé, avec son sac à dos et ses affaires éparpillées autour d'elle. Il va tout de suite appeler les policiers qui vont arriver dans les 10 minutes suivant l'appel. Les policiers trouvent dans le sac de la jeune femme son passeport, son téléphone et ses pièces d'identité.
Okay.
Il est assez simple de déterminer que la jeune femme est Annie Borgesson, une Suédoise âgée de 30 ans, habitant à Malmö en Suède. Selon eux, elle est décédée dans les heures précédant la découverte du corps. Ils vont rapatrier le corps pour des examens ainsi que les affaires de la défunte. Les parents et amis d'Annie, qui sont situés en Suède, vont être avertis de la nouvelle et seront bien sûr dévastés d'apprendre le décès d'Annie. Le lendemain, le 5 décembre, un constat va être rempli par les policiers et rendu public. Sur le constat, il est indiqué qu'Annie est décédée par noyade et sans doute par suicide.
Okay.
Selon eux, elle aurait mis fin à ses jours en se noyant elle-même dans l'eau extrêmement froide de décembre sur la plage de Prestwick. Il ne faut pas oublier que le constat est publié le lendemain de la découverte du corps, donc avant même qu'il y ait une autopsie ou encore des analyses toxicologiques réalisées sur le corps. N'est-ce pas un peu prématuré de conclure au suicide après si peu de temps et après si peu d'analyses, Seb?
Pas mal, oui, c'est vraiment étrange. Comment qu'on peut conclure, comment qu'on peut arriver à ça sans preuve? On dirait que même ça, je me demandais s'il y avait un cadre législatif par rapport à ça. Est-ce que tu peux émettre ces hypothèses-là sans avoir une autopsie, sans que ça soit des hypothèses préliminaires?
Oui, aussi vite que ça.
Oui, exact. Ça m'intriguait pas mal. Mais avant d'aller plus loin, on va découvrir ensemble qui est Annie Burgesson. Annie Christina Burgesson est née le 7 février 1975 et a grandi dans la ville de Tibro, en Suède. Elle était membre d'une famille de 4 enfants, une famille très aimante et compréhensive. Sa famille l'a décrit à l'époque comme étant une jeune fille extravertie qui aimait avoir des conversations animées sur absolument tous les sujets. À l'adolescence, Annie découvre une passion pour la musique qui est sa forme d'art préférée. Elle était une bonne chanteuse et chantait même dans un groupe nommé Annie and the Wolves, qui faisait un genre de pop ska en suédois.
Oui, quand même intéressant. Il reste des traces de ça, d'ailleurs. Okay. J'en ai écouté quelques-unes des chansons d'Annie.
C'est pas si mal.
Ben, des fois, c'est vraiment un petit peu pop ska. Ça fait penser un peu, des fois, à certaines chansons de Cyndi Lauper, là, qui est peut-être un peu moins ska, là, je dirais. Là. Mais des fois, c'est très blues aussi. Donc, il y a des chansons qui sont vraiment plus blues avec guitare acoustique et autres. Donc, elle avait une belle voix quand même.
OK. Elle jouait aussi occasionnellement de la guitare, de la basse. Donc, tu dois bien te reconnaître en elle, si on veut.
Bien sûr.
Elle aimait les gens d'autres cultures et avait des amis provenant du monde entier. De là est venue sa passion pour les langues, car même jeune adulte, ça m'impressionne, elle parle 5 langues. Le suédois, l'anglais, le finnois, le français et, comme son père, est hongrois, elle parlait également couramment le hongrois.
Impressionnant, ça.
Elle était soucieuse de sa santé et même si elle voyageait, elle mangeait de la bonne nourriture et pratiquait des sports. La natation était son exercice de prédilection, même si elle aimait aussi la marche rapide. Ça, je la comprends parce que moi aussi, j'adore ça. Annie était en grande forme et avait de longs cheveux jusqu'à la taille. C'était quelque chose dont elle était très fière. Sa meilleure amie, Maria, a déclaré qu'elle buvait du jus d'aloès car c'était bon pour ses cheveux. Elle n'allait pas non plus chez n'importe quel coiffeur. Seul le coiffeur suédois était autorisé à s'en approcher. Ses amis la décrivaient comme une princesse viking.
Oui, avec elle était sportive, bâtie, des longs cheveux dont elle prenait soin.
Mais c'est vrai, elle avait une bonne carrure. Même si Annie parlait plutôt bien anglais, elle sentait qu'elle souhaitait perfectionner ses connaissances de la langue. À l'automne 2004, elle décide alors de partir en Écosse et s'installe à Édimbourg, où elle étudie l'anglais à l'Aspect Language School, au centre de la ville. Elle avait voyagé en Écosse avec un ami en 2003 et était tombée amoureuse de ce pays. Elle aimait le style de vie en lien avec ses intérêts à elle et pensait que l'Écosse était un endroit où elle pouvait envisager un certain futur. C'est pourquoi elle a choisi de revenir pour une période plus prolongée. Elle se trouva alors une chambre au Linton Court, un bloc d'appartements en colocation avec service hôtelier sur le Murrestown Road. C'était surtout des étudiants ou des jeunes professionnels qui y vivaient et l'emplacement convenait très bien à Annie qui aime être au centre de l'action dans les villes qu'elle visite. Elle avait 2 colocs qu'elle ne connaissait pas avant de les rencontrer. Elle aimait la vie sociale, vivre et travailler avec des gens du monde entier. Annie était réellement dans son élément et s'est très vite adaptée à la vie en Écosse. À l'époque, elle vivait à Édimbourg, à environ 120 km de Prestwick. À l'automne 2004, Annie a étudié l'anglais et obtenu un examen de l'Université de Cambridge à l'Aspect Language School. Elle est ensuite retournée en Suède voir sa famille et est revenue à Édimbourg en février 2005 pour travailler au Scotch Whisky Heritage Center grâce à une bourse d'études jusqu'en août. Puis cet endroit-là, Émile, là, c'est vraiment un paradis du scotch.
Ah oui?
Ah, j'aimerais vraiment ça y aller, là. Ça donne le goût. On y retrace toute son histoire. On peut même faire des dégustations et plusieurs attractions sont présentes, dont un tour de baril.
Intriguant, ça. Oui, pas sûr que je ferais ça.
Moi non plus, ça doit brasser. Mais bon, tu dois t'imbiber d'une odeur après, là. Il y a moins ce côté positif. Là.
Miam!
Annie était une jeune femme en très bonne santé qui ne consommait pas de drogue et était très prudente avec l'alcool. Même en 2005, elle prenait généralement l'habitude de toujours surveiller son verre d'alcool dans les bars pour s'assurer que personne ne mette rien d'illicite dans son verre. Si elle ne pouvait pas voir toutes les étapes du service, elle refusait carrément le verre. Annie était proche de sa mère, Gouge, et de son amie Maria en Suède et restait en contact régulier avec elle. Elle leur parle de ce qu'elle fait et elle discute des personnes qu'elle rencontre. Et même si Annie semblait toujours sociable, elle n'avait pas beaucoup d'amitiés sérieuses en Écosse. Elle sortait souvent seule. Sa mère et Maria n'ont jamais eu l'impression qu'Annie avait un genre de BFF, là, un ami proche là, quand elle était là-bas. Le rugby l'intéressait particulièrement, car les rugbymen étaient exactement son type, athlétique et masculin. Chaque fois qu'il y avait un match, Annie se rendait au Murrayfield pour soutenir le club qui y jouait. L'un de ses lieux de prédilection était le Murrayfield Warrior Rugby Club. Annie a travaillé au Scotch Whisky Center pendant 6 mois, jusqu'en août, date à laquelle son parrainage pour travailler au centre a expiré. Son travail au centre consistait en faire organiser des spectacles éphémères pour divertir les invités. Étant extravertie et multilingue, elle était parfaite pour le poste. Malheureusement, elle ne pouvait plus y travailler et devait réfléchir à son prochain déménagement. Elle est retournée auprès de sa famille en Suède, où elle a reçu des allocations de chômage. Mais ce n'est pas là qu'elle voulait être et elle est retournée à Édimbourg quelques semaines plus tard, soit en octobre 2005. À son retour à Édimbourg, Annie retourna s'installer à Linton Court. Elle y avait vécu de temps en temps au cours de l'année écoulée et s'y sentait à l'aise. Annie a postulé pour des emplois dans le secteur hôtelier, mais elle n'a pas eu beaucoup de chance malheureusement. En attendant que quelque chose se passe, elle passait son temps à faire du tourisme, à faire de la marche rapide et bien sûr à nager. Elle a trouvé une base de loisirs et s'est fait un devoir d'aller nager aussi souvent qu'elle le pouvait. Même si, lors des derniers mois, elle n'avait toujours pas d'emploi, elle n'avait pas non plus de problèmes financiers. Étant donné qu'au cours de sa dernière période en Écosse, alors qu'elle cherchait du travail, elle a reçu des indemnités suffisantes de la part de l'assurance chômage suédoise, donc ça lui a permis de survivre. Entre ses séjours en Écosse, Annie vivait dans sa famille et a donc pu économiser une grosse somme d'argent pour le reste de son voyage. Quand tu n'as pas de loyer, rien à payer, ça fait une différence. Rien ne pouvait ainsi nous amener à penser qu'elle se retrouverait décédée sur une plage en plein mois de décembre.
Effectivement, qu'est-ce qui nous a rendus jusqu'ici, en fait, là? Revenons un peu sur la scène de la découverte pour tenter de comprendre. Le corps d'Annie a été retrouvé face contre terre, habillé, avec encore les chaussures aux pieds. Ses pantalons semblaient remonter légèrement là, au niveau des chevilles, comme si quelqu'un qui souhaitait se tremper les jambes dans l'eau. Là, t'sais. Rappelons-nous que l'eau est glaciale là, à ce temps de l'année en décembre. Aussi, son manteau et son sac à dos sont retrouvés à quelques mètres de son corps seulement, là, ce qui est plutôt rare lorsqu'un corps part à la dérive, à la mer, accompagné d'autres éléments. Dans son sac, on retrouve son passeport, comme on a dit plus tôt, ainsi que 2 livres qu'elle doit rendre sous peu à la bibliothèque en Suède. Il y avait aussi son portefeuille avec 300$ avec elle. Donc, elle manquait pas d'argent dans l'immédiat d'une certaine façon. Il y avait aussi différents effets personnels, dont son téléphone portable, qui était un vieux téléphone à cette époque-là. 2005, c'était pas des smartphones, mais quand même, c'était un téléphone portable numérique, là, un peu de style là, Nokia. Là.
Oui, des flip phones.
Toutefois, elle avait toujours avec elle un porte-document de style Filofax dans lequel elle rangeait ses mots de passe, ses informations importantes et dans lequel elle écrivait aussi là, ses récits de voyage. Ce Filofax est manquant dans la liste des objets retrouvés près de son corps, donc c'est assez intriguant. C'est donc assez étrange qu'autant d'effets personnels se retrouvent comme ça près d'elle et dans son sac, alors que d'autres items bien précis manquent étrangement là, dans l'inventaire. Les policiers ont rapidement conclu à la thèse du suicide par noyade, comme on vous disait, le lendemain de la découverte, avant d'avoir les résultats des tests. Ceci dit, si on part de cette thèse, on suppose que Annie se serait elle-même immergée dans l'eau de la plage de Prestwick.
Ouais.
Il est important de savoir que cette plage est très peu profonde. Il faut marcher, le Seb, là, presque 1 kilomètre dans l'eau pour avoir enfin la tête submergée.
Okay.
Donc, c'est vraiment un genre de pente douce, là, le fond de la plage. C'est évidemment, c'est pas impossible de se suicider dans ce contexte-là, mais c'est très improbable ou encore presque du jamais vu. Cela implique que la personne se serait sans doute submergée la tête elle-même dans l'eau très peu profonde en se forçant là, de tout son corps pour maintenir la tête sous l'eau, là, ce qui est très contre nature. Là.
Oui, exact.
La noyade, c'est quand même assez... Ton corps réagit beaucoup quand t'es en train de te noyer, parce que ton corps veut tout faire pour se sortir la tête de là. La plupart des suicides par noyade sont des gens qui sautent d'un pont, par exemple, ou qui sautent dans une rivière, ou qui sautent d'un bateau. Donc, c'est rare que c'est par immersion progressive comme ça.
Exact.
Là. C'est un peu comme si on tentait de se suicider dans un bain à la maison par noyade. Encore une fois, c'est pas impossible, mais c'est peu conventionnel, c'est peu répertorié. Autre détail étrange dans le cas d'un suicide par noyade, il est très rare que les gens qui souhaitent s'immerger dans l'eau gardent leurs souliers, en fait. C'est statistique, encore une fois, c'est pas impossible, mais c'est une constante qui est très peu répertoriée aussi là, par les enquêteurs. Okay. Deux semaines plus tard, le corps d'Annie est rapatrié en Suède auprès de ses parents, ainsi que tous ses effets personnels. Comme les autorités ont conclu au suicide, ils n'ont plus besoin de son corps ni de ses effets personnels. Mais les parents d'Annie sont secoués de cette décision-là.
Ben,
comment peuvent-ils clore une enquête aussi rapidement? Puis si d'autres éléments surviennent, d'autres événements ou autres, comment vont-ils faire pour faire des analyses ou des prélèvements sans le corps puis sans les autres items retrouvés? C'est bizarre un peu comme
C'est move. Rapide, hein,
ouais. Ouais. C'est une bien drôle de décision qui va un peu décourager les parents d'Annie qui ne croient pas du tout à la théorie du suicide, eux. Parce que selon eux, Annie allait très bien. La jeune femme était à sa place dans la vie et elle embrassait chaque nouvelle expérience qu'elle vivait. Pour eux, il était impensable qu'elle s'enlève la vie alors qu'elle vit un peu son rêve de voyager et découvrir de nouvelles contrées. Quand son corps arrive en Suède, par contre, certains détails vont choquer les parents et même les médecins légistes qui vont jeter un œil au corps. Premièrement, Seb, Annie est recouverte de plusieurs blessures sur tout le corps, un peu comme des ecchymoses, comme si elle avait été égratignée d'un peu partout.
Ouais.
Elle a même une longue trace sur l'avant-bras.
Okay.
Donc, c'est quand même assez bizarre. Ça n'avait pas été répertorié dans les documents des policiers, ça. Mais ce qui choque le plus, c'est qu'elle a des marques autour du cou. Et il y a deux marques plus précises là, à l'arrière du cou qui correspondent exactement à la position là, des index de deux mains si on tentait de l'étrangler, en fait.
Okay.
Donc, comme s'il y avait eu une pression très forte à cet endroit-là. Ces blessures, encore une fois, ne figurent nulle part dans le document de déclaration des policiers. Et même spécifié aucune preuve de blessure dans le document. Donc, bizarre un peu. Le médecin légiste suédois, il est stupéfait, lui. Deuxièmement, on se rappelle qu'Annie a de longs cheveux blonds jusqu'au bas du dos. Mais sur le corps retrouvé, les cheveux arrivent à peine aux épaules, comme s'ils avaient été coupés grossièrement ou arrachés de sa tête.
Oui, ça, c'est tellement étrange.
Ça, c'est vraiment étrange. Peut-être que ça a été coupé à quelque part par les policiers dans l'analyse du corps,
c'est
je sais
rare
pas.
Qu'ils font ça.
Oui. Comment expliquer tout cela là, dans une hypothèse de suicide? C'est là qu'on est un peu confus, en fait, cible. Il est possible que le corps ait subi certains dommages en roulant dans le courant de l'eau, hein, qu'il se soit égratigné sur des pierres, des roches ou autres, mais il faudrait que ces blessures soient survenues avant la mort parce que, encore une fois, selon les médecins légistes, quand le cœur arrête de battre, il n'y a plus de pression sanguine et le corps ne saigne plus. C'est plus difficile pour des ecchymoses de se former ou des blessures de saigner, tu sais. Et pour les cheveux, ben là, c'est dur à expliquer. Là. Est-ce que ce serait couper les cheveux elle-même, peut-être, avant de mourir?
Oui, oui.
Je vois peu de scénarios où les cheveux auraient été coupés en roulant dans le courant, par exemple.
Oui, non, ça...
Sans doute qu'ils se seraient mêlés aux algues puis à d'autres objets, mais on se rappelle que c'est un courant assez faible. Il y a des psychologues aussi qui s'en ont mêlés qui indiquent que c'est pas rare, en fait, qu'une femme coupe ses cheveux lorsqu'elle est en dépression
ou
avant son suicide parce que les cheveux sont un symbole très fort de féminité, de pouvoir, de beauté. Mais juste avant la mort, apparemment que c'est très rare qu'on voit ça. Souvent, ça va être pour marquer une phase bien avant la mort, comme ça. Donc, encore une fois, c'est pas impossible, mais ça semble un peu improbable.
Oui, puis c'est pas un poisson ou un animal marin
qui aurait coupé les cheveux comme
qui
ça.
Qui peut manger des cheveux. Ou, c'est ça,
non.
Ça fait pas de sens.
Puis toi, Seb, comment tu trouves justement les circonstances de la découverte du corps? Est-ce que tu trouves que la thèse du suicide est crédible?
Ben pas du tout. C'est ça qui est intriguant. On va continuer à en parler plus tard, mais il y a vraiment quelque chose d'étrange. Tu sais, il y a certains cas, là, ça prend tellement de temps, en plus, rapatrier le corps dans le pays original.
Fois, ça prend des années.
Ben oui, même. Puis la famille se bat pour avoir le corps. Puis dans ce cas-ci, on dirait une patate chaude, là, dans le sens qu'ils ont voulu comme s'en débarrasser, là, si je peux exprimer ce mot-là. Ça aussi, c'est étrange. Les ecchymoses, au début, je pensais peut-être en transportant le corps, mais avec ce que tu dis justement, que quand on est mort, il n'y a plus de circulation, donc on ne produit plus d'ecchymoses. Donc, c'est étrange. C'est-tu défendu ou quoi que ce soit? On dirait que j'y crois pas tout ça. Puis, un peu comme tu dis, une noyade suicide de ce style-là, c'est tellement compliqué dans un sens, parce que, comme tu dis, le corps se combat.
Oui, elle, c'est une nageuse hein, aussi.
En plus, c'est vrai, t'as raison. Mais là, je me suis dit, elle a-tu pris des gravoles ou des anxiolytiques, là, pour la calmer, la détendre au point de l'endormir. Mais étant donné qu'on n'a pas eu d'autopsie, en tout cas, du moins, on n'a rien qui révèle des substances dans son sang, on ne sait pas ça non plus. Parce que je me suis posé la question, quelqu'un qui veut vraiment se suicider dans ce contexte-là, elle pourrait prendre des médicaments puis pouf, tomber endormie puis comme ça, là,
oui,
elle combattrait pas. Mais c'est ma seule hypothèse. Mais il y a tellement de choses autour qui sont wrong, qui sont étranges, que on dirait que j'arrive pas à coller tout ça ensemble.
Là. C'est clair. Il y a un autre médecin légiste, Seb, de Londres, qui a eu la chance d'inspecter le corps d'Annie quand la famille a souhaité obtenir le plus d'un avis. Et lui aussi ne comprend pas du tout, le fait que les nombreuses blessures présentes n'ont pas été soulevées auparavant dans la première analyse des policiers écossais. Tu sais, on peut croire que les blessures peut-être aient été faites de cause naturelle en roulant dans l'eau ou sur des pierres. Je ne sais pas s'il y a des coraux à cet endroit-là. Je ne sais pas précisément. Là. Mais ça se peut que ça en cause. Mais le fait que ça ne soit pas inscrit dans le rapport, c'est surtout ça qui est bizarre. Ouais. Là, surtout quand on rapatrie un corps aussi vite, c'est qu'on estime qu'on a tout examiné avec grand soin et qu'on a pris toutes les notes et les photos qu'on pensait. Là. Donc, de ce côté, la famille n'est pas du tout rassurée des débuts de l'enquête. Pour eux, il est beaucoup trop tôt pour écarter l'hypothèse du meurtre. Et en effet, cette histoire nous réserve encore bien des rebondissements.
On a bien fait le tour des circonstances de la découverte du corps d'Annie et Emile. Je propose maintenant qu'on fasse le tour des traces numériques pour tenter d'expliquer les raisons de son départ d'Édimbourg, mais aussi les détails de ses allées et venues. Vous allez voir, c'est particulier. Il est possible de voir si, par exemple, elle était seule ou accompagnée ou encore en détresse, et idéalement, découvrir son itinéraire cette journée-là. Tout cela risque de nous aider à comprendre la suite des choses. Nous sommes en 2005, donc il y a beaucoup moins de caméras de surveillance que de nos jours. Aussi, les caméras sont de bien moins bonne qualité qu'aujourd'hui. Ceci dit, Annie a tout de même été aperçue à quelques reprises les jours précédents de la découverte de son corps. Tout d'abord, au début décembre, Annie a payé son mois suivant de loyer, a reçu un vaccin et a aussi payé un mois d'abonnement au centre de loisirs où elle va faire de la natation. Elle avait donc des projets long terme là, dans la ville d'Édimbourg. Rien n'indique qu'elle souhaitait quitter définitivement. Le 3 décembre, elle entreprend un voyage pour retourner voir sa famille en Suède pour quelques jours. Elle souhaite voir ses amis et aller au IKEA. Ah, le IKEA. On suppose qu'elle se dirigeait vers Glasgow pour prendre un vol à partir de l'aéroport de Prestwick, comme elle a l'habitude de faire lorsqu'elle rentre chez elle. On sait toutefois qu'elle n'a pas acheté de billet d'avion en avance. Elle comptait possiblement en prendre un sur place le jour même, une pratique que l'on ne voit plus tellement de nos jours.
Non, en effet, ben, il y a une certaine époque, tu pouvais arriver avec vrai, 100 piastres dans les poches à l'aéroport, donner ton nom au guichet, puis t'apparaissais sur une liste.
Oui, oui,
là,
oui.
S'il restait de la place dans l'avion, tu pouvais embarquer en stand-by.
J'avais oublié.
Mais à moindre coût même, là, oui, pour pas cher, oui. Vu qu'il essayait juste de fouler l'avion.
Ouais.
Mais maintenant, c'est plus possible.
Non, oublie ça. Là. Glasgow est à environ une heure de route de Édimbourg. Dans son cas à elle, n'ayant pas de voiture, on suppose qu'elle prend alors un train en partant du Haymarket d'Édimbourg jusqu'à la gare centrale de Glasgow pour ensuite se rendre à l'aéroport. Il y avait un vol en direction de la Suède ce soir-là. À 14h17, ses données bancaires indiquent qu'elle a tenté de faire un retrait dans un guichet de la gare centrale de Glasgow. Elle tente alors de retirer 100 livres du guichet, chose qu'elle se fait refuser par manque de fonds. Elle tente par la suite de retirer 50 livres, qui, encore une fois, lui sont refusés. Elle va donc abandonner le guichet automatique. À ce moment, on ignore si elle a suffisamment d'argent pour prendre son vol. Elle doit prendre par la suite un train pour se rendre à l'aéroport de Prestwick, qui est à un peu moins d'une heure de route de la gare de train.
Donc, elle tente de retirer de l'argent à deux reprises.
Ouais.
C'est refusé par manque de fonds, mais on sait quand même qu'il y avait 300 $
oui,
sur elle
c'est vrai,
quand son corps a été retrouvé.
T'as raison. Sa prochaine apparition a été filmée par des caméras de vidéosurveillance à l'aéroport de Prestwick une heure plus tard, à 3h15. Bien que Prestwick soit assez loin d'Édimbourg, littéralement de l'autre côté d'un pays étroit, c'était l'aéroport qu'Annie utilisait habituellement lorsqu'elle voyageait vers et depuis la Suède avec Ryanair. À 15h15, des images de vidéosurveillance la montraient traversant le passage aérien reliant la gare à l'aéroport. Elle fumait en marchant. Lorsque sa famille a visionné les images, elle a identifié le pull en polar rouge d'Annie sous sa lourde veste d'hiver. Ses longs cheveux blonds étaient attachés en queue de cheval. La famille remarque que le pull rouge et noir qu'elle portait sur les images de surveillance n'a pas été retrouvé sur la plage, ce qui est un peu bizarre. Peu de temps après, Annie a été vue sortant dans le parking de l'autre côté du terminal. Cela signifiait qu'elle avait dû traverser tout le terminal pour atteindre la sortie de l'autre côté. Ce qui est étrange, c'est que toute cette marche lui a pris moins d'une minute, 55 secondes là, si on veut être exact. Lorsque les enquêteurs ont reconstitué la marche avec une personne du même âge et du même niveau de forme physique qu'elle, il a fallu 1 minute 32 secondes pour arriver de l'autre côté. Donc, la seule façon d'y parvenir en 55 secondes, c'était que soit Annie court ou bien sûr que les codes temporels des caméras de vidéosurveillance auraient pu être erronés. C'est dans les hypothèses.
Ouais.
Après 3 minutes de passer dans le stationnement, Annie retourna dans le bâtiment principal. Elle avait l'air furieuse et en colère. Que s'est-il passé pendant ces 3 minutes vitales? Annie était-elle censée rencontrer quelqu'un qui ne s'est pas présenté? Elle a certainement pris cette direction-là avec une intention. Et s'il y avait quelqu'un, est-ce que cette personne venait d'arriver ou est-ce qu'elle partait? Avait-il l'intention de voyager ensemble? Quoi qu'il en soit, après 2 heures de voyage, Annie n'a passé qu'un peu plus de 4 minutes à l'aéroport avant de repartir.
Ouais, c'est très court, hein?
C'est vrai.
Pour quelqu'un qui voulait rentrer à la maison.
Ben oui.
Moi aussi, je me demande qu'est-ce qu'elle allait faire dans le stationnement? Est-ce qu'elle a tenté de rejoindre quelqu'un? Est-ce qu'elle a fait un appel téléphonique, tenté de se faire transférer de l'argent? C'est mystérieux tout ça. Et puis pourquoi est-ce qu'elle revient furieuse?
Oui, exact. Puis le fait qu'elle fumait, ça m'a intrigué aussi. Je ne sais pas si c'était dans ses habitudes, mais vu que c'est quand même quelqu'un qui faisait quand même globalement attention à sa santé, on dirait que souvent, je connais des gens quand ils tombent très, très stressés, là, ils fument. Mm. Fait que justement, je me demandais si c'est pas l'événement qui est arrivé qui fait que justement être en colère et tout ça. Puis souvent, pour se calmer, mais les gens fument. Je me suis demandé si c'était un comportement régulier ou plus une habitude pour se calmer. Là. Il y avait un vol pour Göteborg à 18h30 et un autre le lendemain matin, mais rien ne prouve qu'elle ait acheté un billet. Peut-être avait-elle l'intention d'acheter un billet à l'aéroport en attente pour économiser de l'argent, qui sait. Cependant, elle n'est de toute façon pas restée assez longtemps au terminal pour acheter un billet. Ouais, c'est vrai, 3-4 minutes, ça, c'est pas long.
Là. Ouais, c'est un peu à n'y rien comprendre, tu sais, de faire toute cette route-là, partir toute la journée pour se rendre à l'aéroport, puis rester juste 4 minutes au total, c'est vraiment mystérieux, là, sur le bord d'être incompréhensible, je dirais. Là. Puis rappelons-nous, Seb, que sur ces images de caméras de surveillance de l'aéroport, Annie a toujours les cheveux très longs. Donc même à quelques heures de sa mort, elle ne les a toujours pas coupés. Là. Donc on les voit sur la caméra de surveillance. Plus tard, ses colocataires à Linton Court ont déclaré que certains de ses objets personnels avaient disparu, comme sa brosse à dents, par exemple, et son maquillage, ce qui indiquait qu'Annie avait dû faire ses valises pour partir. Donc, elle était partie pour peut-être plus qu'une journée. Après l'aéroport, des caméras de vidéosurveillance ont capturé des images d'Annie à 16h05. Elle a été vue marchant sur un trottoir de Station Road, une route à deux voies très fréquentée menant à la ville de Prestwick. La nuit tombait tranquillement en ce soir de décembre et la Suédoise se dirigeait vers une ville qu'elle ne connaissait pas. Les images de cette caméra sont de très mauvaise qualité, là, mais on distingue tout de même des pantalons et chaussures de la même couleur là, que ce qu'elle portait. Il faut comprendre que cette route près de la plage de Prestwick, c'est pas une belle promenade comme à Santa Monica. Là. C'est un endroit où seulement des résidents locaux se promènent. Donc, il est fort probable que cette personne sur les vidéos soit Annie. Donc, tu sais, par élimination, on peut facilement conclure qu'une personne seule autour de ces heures-là, avec des vêtements de la même couleur, même si les images sont floues, il y a des fortes chances que ce soit elle. C'est justement une route à deux voies où les gens promenaient leurs chiens, mais c'est pas une belle promenade sur le bord. C'est quand même Prestwick, c'est une petite ville, mais il n'y a pas beaucoup de maisons sur le bord de la plage ou quoi que ce soit, ou de restos ou de commerces.
Oui.
Donc, c'est probablement, moi je crois que c'est elle, sans doute, qui était sur ces caméras de surveillance. Et là, ben, il s'agit de la dernière trace que nous avons d'Annie avant sa mort, ces images-là. Okay. Sur la plage de Prestwick, la police a traité l'information sur les lieux où le corps d'Annie a été retrouvé. Dans son sac à dos se trouvaient deux livres empruntés à une bibliothèque en Suède, ce qui confortait un peu la théorie selon laquelle elle rentrait chez elle. Ouais. Elle avait des plans à court terme. Elle avait amené des livres pour ramener à la bibliothèque. Étrangement, sa brosse à dents et les autres effets personnels qu'elle avait emportés depuis Linton Court avaient disparu. Et surtout, son filofax n'était pas dans le sac à dos. Elle y gardait son argent et ses cartes de train, par exemple. Elle notait les noms et les numéros de téléphone de personnes qu'elle rencontrait, puis elle l'utilisait un peu comme récit de journal de voyage, fait. Là. Elle ne portait pas non plus le pull en polaire rouge et blanc vu sur les images de vidéosurveillance, comme t'as dit, Seb. Là. Elle portait un T-shirt rose et un jean bleu avec une veste verte qui s'est retrouvée à côté d'elle, en manteau d'hiver un peu. La police a estimé que la famille aurait pu se tromper sur la toison d'Annie, mais elle a été catégorique. Annie l'avait achetée en Suède, l'étiquette était « Weather Report » et les couleurs étaient rouge et blanc avec une fermeture éclair noire. Pour eux, il est évident qu'elle le portait sous sa veste verte à son arrivée à l'aéroport de Prestwick. Un homme a vu la police sur la plage et a raconté un incident qui lui avait paru étrange la nuit précédente. Le témoin oculaire a déclaré que lui et un ami marchaient le long de la promenade de la plage de Prestwick vers 16h30 et ont vu une silhouette solitaire au loin sur la plage, à environ 150 mètres de la promenade, immobile sur le bord de l'eau, regardant la mer. Il ne pouvait pas dire avec certitude s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme, par contre. Il n'a pas réfléchi jusqu'au lendemain matin, il a laissé ça comme ça, mais c'est quand il a vu qu'il y avait des policiers sur la plage qu'il s'est manifesté. C'est alors qu'il a raconté ce qu'il a vu. Comme Annie a été repérée par les caméras de surveillance sur Station Road à 16h05, la police était certaine qu'elle aurait pu arriver à l'endroit exact sur la plage à 16h30, selon le témoignage de l'homme, là. Même si c'est toute une marche. Cependant, il n'a jamais été demandé aux témoins oculaires si la silhouette qu'il avait vue ressemblait ou non à Annie, mais le rapport indiquait qu'il avait déclaré avoir vu quelqu'un correspondant à la description du corps sur la plage.
Okay.
Il n'y avait aucun moyen de dire avec certitude si la personne qu'il avait vue était Annie. Et d'ailleurs, David Keenan, l'homme qui a trouvé le corps initialement, il n'a jamais été recontacté par la police, lui, là, pour une interview après.
Ça,
là.
C'est étrange.
Ce qui est très étrange. Là. Il aurait pu être un suspect même dans l'affaire.
Ben oui.
Bref, du point de vue de la famille et des intervenants externes, l'enquête a été bouclée très rapidement et voire botchée.
Ah, c'est très étrange. Si on revient, Émile, à la thèse du suicide, qui est la thèse la plus soutenue par les policiers écossais, ça peut être intéressant de tenter de comprendre comment se sentait Annie pendant les semaines qui ont précédé sa mort. Je sais que sa famille et ses amis refusent de croire à cette thèse, mais il ne faut pas oublier que bien des gens qui souffrent de dépression ou de problèmes de santé mentale n'en parlent pas toujours à leurs proches. Là. Ça, c'est vrai. Là. Par peur d'éveiller des doutes ou de créer de l'inquiétude. J'aurais même plutôt tendance à enquêter auprès de ses amis en Écosse et de ses colocs là, pour vraiment saisir comment, dans quel mood elle était à ce moment-là. Là.
Ben oui, il faut se méfier parfois de... Moi, je me méfie toujours dans des cas de disparition louche ou de meurtre sur des membres de la famille ou des amis qui disent « ben non, ça serait pas son genre de se suicider » ou « c'est quelqu'un qui aimait la vie » et tout ça. Souvent, on a tous vécu des périodes sombres. On le dit pas toujours à nos proches puis à nos parents.
Non, exactement.
On veut pas qu'ils s'inquiètent et tout ça. Là.
Exact. En novembre, peu de temps avant sa mort, sa famille a remarqué qu'Annie n'était pas elle-même. Lors de certains appels téléphoniques, tout était normal. Mais d'autres conversations étaient très étranges. Par exemple, elle a demandé un jour à son frère s'il était possible pour quiconque de suivre l'activité informatique de quelqu'un. Elle voulait savoir à quel point il serait difficile de pirater l'ordinateur de quelqu'un. Elle ne lui a pas dit pourquoi elle avait demandé ça. Il ne lui a pas plus posé de questions non plus. Mais Annie se sentait suivie à Édimbourg. Le dimanche 27 novembre, Annie a appelé son amie Maria en Suède. Ils ont parlé pendant près d'une heure. Maria a supposé qu'Annie avait passé l'appel depuis Linton Apartment, car Annie ne semblait pas du tout pressée de mettre fin à l'appel. Étrangement, il n'y avait aucune trace de cet appel. Il était donc difficile de déterminer où se trouvait Annie à ce moment-là. Durant toute la dernière semaine de novembre, le comportement d'Annie fut quelque peu inhabituel. Elle appelait sa famille à des heures étranges, comme tard dans la nuit, alors qu'elle devait savoir là, qu'il dormait. Ce n'était pas nouveau pour elle là, d'être en décalage. De nombreux appels sont restés sans réponse, car ils pensaient la rappeler à leur réveil. Lorsque les membres de sa famille ont tenté de la rappeler le lendemain, elle n'a pas répondu. Au fil des semaines, les appels de la part d'Annie se faisaient de plus en plus rares. Surtout pour elle qui avait l'habitude de les tenir au courant de ses moindres faits et gestes. Elle était très proche. Personne n'était trop inquiet car il savait qu'Annie était quelqu'un d'occupé, toujours dans l'action. Donc, mais malheureusement, elle n'a jamais eu l'occasion de se confier à aucun d'entre eux sur ce qui la dérangeait. Le 28 novembre, Annie s'est présentée de manière inattendue à son ancien lieu de travail, le Scottish Whisky Heritage Center. Elle a discuté avec une ancienne collègue, une Norvégienne appelée Kat Dalmo, et tout semblait bien aller. Annie était pétillante, bavarde, comme d'habitude. Mais son attitude a changé lorsqu'elle a reçu un appel téléphonique. 18h15, sa mère a appelé de Suède. Gauge a appelé parce qu'elle s'inquiétait pour Annie. D'après sa conversation avec Maria et ses frères et sœurs, et même ses propres conversations avec Annie, quelque chose ne semblait pas bien aller. Elle lui a demandé si quelque chose n'allait pas. Annie a dit qu'elle ne pouvait pas vraiment parler car elle était assise avec Kat. Sa mère était complètement dans le flou lorsqu'Annie fit un étrange commentaire. Et je la cite, « Il faut respecter ça, mais je dois prendre soin de moi. » Gauge n'avait aucune idée de ce dont Annie parlait et lui a demandé si elle pouvait la rappeler plus tard pour qu'il puisse parler un peu plus. Annie a répondu énigmatiquement « Eh bien, on verra.
» Donc vraiment, il y avait des changements de son cours, oui. Au niveau des réactions puis de sa personnalité, même un petit peu, là, oui. Quelques jours avant son décès.
Oui, exact. C'est certain qu'il y avait quelque chose. Gauge était déconcerté, mais pensait qu'elle aurait bientôt des nouvelles d'Annie, lorsqu'elle pourrait parler correctement. Mais cela n'arrivera jamais. Moins de 30 heures après cet étrange coup de téléphone, Annie serait morte. Les autorités écossaises informeront plus tard Gauge qu'il n'y avait aucune trace de cet appel téléphonique dans les relevés téléphoniques d'Annie, tout comme l'appel de 2 heures à Maria le dimanche précédent. En fait, tous les appels entrant et sortant de son téléphone portable au cours des 9 jours précédant sa mort ont été effacés manuellement. Hey, c'est vraiment bizarre.
Oui,
là, ça,
vraiment.
Là. Une autre amie a appelé Annie de Suède entre 18 et 20 heures. Annie lui a dit qu'elle se rendait à une fête vers 22 heures et qu'elle semblait excitée. Personne n'a jamais pu corroborer l'histoire de la fête. Où s'est-elle déroulée? Avec qui est-elle allée? Comment y est-elle arrivée? Parce qu'Annie n'avait jamais bu de manière excessive ni pris de drogue récréative, donc son amie ne s'inquiétait pas vraiment pour elle. Annie était intelligente et responsable et savait prendre soin d'elle-même. C'était le dernier contact qu'un ami ou un membre de la famille d'Annie avait avec elle. À partir de maintenant, l'histoire prend quelques tournants bizarres. Le lendemain de la prétendue fête, une femme qui travaillait dans les appartements de Linton Court a vu Annie à son appartement à 13h15. C'était le samedi 3 décembre. L'employé du Linton Court a déclaré qu'Annie était bouleversée à cause d'un problème de relation amoureuse, mais qu'elle ne voulait pas en parler. Elle a également entendu Annie dire à une autre personne qu'elle devait s'occuper de quelque chose et qu'elle avait pris une décision qui pourrait changer sa vie. Cette conversation a eu lieu 2 jours avant que son corps soit retrouvé.
Oui, cette décision-là qui pourrait changer sa vie, je ne sais pas si c'est en lien avec son voyage à l'aéroport ou son retour en Suède. Parce qu'il y a un autre truc étrange, hein, c'est qu'on est début décembre, puis Annie prévoyait déjà retourner en Suède pour les vacances de Noël.
Décembre. Oui, oui, oui.
Donc, pourquoi est-ce qu'elle voulait retourner à la mi-décembre, au début décembre,
oui, c'est vrai.
Pour revenir quelques semaines plus tard? Oui. Tu sais, c'est... Je veux dire, c'est pas impossible, encore une fois,
non,
mais c'est bizarre un peu. Là, quelqu'un aurait tendance à sauver les billets d'avion, c'est quand même cher,
oui,
à sauver
exactement.
Un peu d'argent pour dire on va se voir dans quelques semaines. Mm-hmm. Je pense pas que ce soit en raison de 2 livres à la bibliothèque.
Non.
Donc déjà ça, l'idée du voyage, je le trouve bizarre. Mais on ne sait pas si elle voulait aller en Suède.
Ouais,
on sait qu'elle se dirigeait vers l'aéroport, puis que c'était l'aéroport qu'elle prenait habituellement pour aller en Suède. Mm-hmm. Puis on sait qu'il y avait un vol ce soir-là vers Göteborg. Donc, potentiellement qu'elle pouvait y aller. Mais est-ce qu'elle voulait aller ailleurs, possible aussi?
Oui, c'est vrai. Hein? Mais sinon, il y a vraiment quelque chose d'étrange. La journaliste de la BBC, Hazel Martin, dans son documentaire « Body on the Beach » datant de 2023, là, qu'on vous a parlé en intro, a épluché une tonne de témoignages recueillis auprès des proches d'Annie, dont ses colocataires. Une d'entre elles a affirmé qu'Annie semblait déprimée car elle n'arrivait pas à se trouver du travail. Elle a aussi dit qu'Annie était en général très seule. Une autre de ses colocs, qui était elle aussi suédoise, a affirmé qu'elle a dû quitter la colocation à cause d'Annie, car elle était too much et trop intense. On voit que le portrait dressé par ses colocs est bien différent de celui dressé par sa famille. Hein?
Oui, puis « too much », c'est entre guillemets, c'est l'expression qu'elle a utilisée, comme si quelqu'un qui est « too much », c'est quelqu'un qui, par exemple, va être tendance vers le drame, vers l'exagération, des choses comme ça, là, d'une bonne intensité.
Un autre témoignage qui est encore plus troublant, là, écoute ça, provient d'un homme qui travaillait dans une boutique près du logement d'Annie. Celui-ci nous dit que Annie elle venait souvent le visiter à sa boutique et qu'elle pouvait lui parler pendant de longues heures. Il l'a décrit comme quelqu'un de non conventionnel qui semblait chercher son chemin dans la vie. Ça veut dire qu'elle a dû y confier des choses quand même, tu sais, pour qu'il puisse arriver à cette conclusion-là.
Il ne faut pas oublier que ses parents disaient l'inverse, disaient qu'Annie, elle était à la bonne place dans sa vie.
Oui, c'est vrai, tu as raison. Hein. Mais souvent, on a un masque hein, avec nos parents, notre famille, versus nos amis. Là, souvent, on ne porte pas le même masque. Un soir, il est chez lui dans son logement et entend frapper à la porte. Lorsqu'il ouvre, il aperçoit avec stupeur Annie de l'autre côté. Il est sous le choc. Quand il lui demande comment a-t-elle trouvé son adresse, elle lui répond qu'elle l'a suivi un soir jusqu'à chez lui après le travail.
Oh.
C'est assez bouleversant de lire ce témoignage. Est-ce possible qu'Annie soit elle aussi une stalkeuse?
Oui, parce qu'elle pensait être suivie, là, tu sais.
Non, c'est étrange. Ouais, l'homme de la boutique, je ne sais pas si c'est un ancien joueur de rugby.
Ouais.
De retour en Suède, la maison familiale d'Annie était en cours de rénovation et ses parents, frères et sœurs, tous étaient préoccupés par le projet ce week-end-là. Gauge a pensé à Annie, mais n'a jamais eu le temps de l'appeler. Décidément, quelque chose ne tournait pas rond les semaines précédant sa mort.
Non, on se rend compte qu'il y avait, d'autres histoires un petit peu plus inconnues là, dans, ouais. dans la vie d'Annie. Là. Sa mère, justement, connaissait le mot de passe du compte Hotmail d'Annie et s'est connectée sur le compte pour faire sa propre enquête. Et le mystère s'approfondissait encore. C'était vide. Tous les emails envoyés et reçus avaient été effacés.
Incroyable.
À l'époque, à la fin des années 90 et au début des années 2000, les boîtes de réception de courrier électronique disposaient généralement d'un espace limité.
Oui, oui.
Puis on recevait pas autant de courriels et de spam qu'aujourd'hui. Là.
Ben non, oui.
Donc, une fois qu'une boîte de réception atteignait sa capacité, le propriétaire ne pouvait plus recevoir d'emails. Ceux-ci étaient simplement là, renvoyés à l'expéditeur. À l'époque, il était bon de garder votre boîte de réception bien rangée en supprimant les emails après les avoir lus.
Oui.
Mais même ainsi, on aurait probablement conservé quelques emails et supprimé uniquement ceux contenant des pièces jointes volumineuses.
Oui, oui.
Mais là, il n'y avait plus rien là, dans le compte. Là.
Étrange.
La famille d'Annie était choquée par les emails manquants, mais a essayé de se convaincre qu'Annie préférait utiliser son Filofax. Donc, même si les emails contenaient des informations importantes, elle les aurait notées puis supprimées par la suite.
Oui.
Plus étrange encore, après une enquête plus approfondie, ils ont constaté qu'Annie ne les appelait que depuis des cabines téléphoniques.
Ah, c'est pour ça, le manque de traces.
Elle a dit à sa famille de ne pas appeler sur le téléphone fixe de l'appartement de Linton Court, car « il », entre guillemets, pourrait l'écouter. Sa famille a supposé qu'elle faisait référence aux écoutes téléphoniques là, de ses colocataires, mais après avoir réalisé à quel point elle était allée pour passer des appels téléphoniques, ils se sont à nouveau demandé « mais qui écoutait les appels téléphoniques d'Annie et pourquoi?
Ben
c'est
oui.
louche tout ça. Au fur et à mesure que Maria et Gouge rassemblaient de plus en plus d'informations, Maria commençait à recevoir des appels téléphoniques et quelqu'un raccrochait immédiatement à l'autre bout du fil.
Mm.
Elle s'est sentie intimidée et effrayée, mais a juré qu'elle n'arrêterait pas de chercher la vérité sur ce qui était arrivé à son amie. Maria s'est aussi souvenue d'un incident survenu à Linton Court. Sachez que le règlement intérieur stipulait que les résidents n'étaient pas autorisés à ramener leur partenaire sexuel après une soirée aux appartements. L'une des colocataires d'Annie a ignoré la règle et cela a bouleversé Annie. Alors, un soir, quand la coloc est allée dans une boîte de nuit, Annie l'a attendue et quand la fille est rentrée à la maison avec un gars, Annie a expliqué au gars quelles étaient les règles de la maison, en fait, et puis il est reparti. Et là, sa coloc était furieuse.
Ouais, oui.
Bien sûr, ça n'aurait pas conduit à la mort d'Annie, mais cela montrait que Annie n'avait pas peur de la confrontation, puis que même si elle projetait une image un peu parfaite, ça brassait quand même un peu là, dans sa vie.
Oui, oui, absolument. Puis on voit qu'elle est quand même rigide, tu sais, comment dire, sur certaines règles.
Ouais.
Surtout à cet âge-là, souvent, ce genre de règles-là, comment dire, les hormones gagnent. Là. Mais dans ce cas-ci, tu sais, on voit qu'elle était vraiment à cheval là-dessus. Si on revient, là, Émile, dans les mois et semaines précédant sa mort, et que l'on tente de voir si Annie avait des relations amoureuses à Édimbourg, ça pourrait nous aider à comprendre un peu plus à qui elle faisait référence dans ses conversations. Et là, les choses deviennent encore plus bizarres.
Ah oui, encore.
Elle s'est confiée à son amie Maria sur une rencontre inattendue qu'elle fait lors de son voyage. Un soir, elle est sortie seule dans une boîte de nuit appelée Mood, au centre-ville d'Édimbourg. Mood est une boîte de nuit fréquentée par les étudiants qui a une cote de 2 sur 5 sur TripAdvisor. Donc, ouais. Elle est fermée depuis longtemps. Là, elle a rencontré un gars qui disait s'appeler Martin Leslie. Annie n'en croyait pas ses yeux, car Annie est une grande fan de rugby. Il se trouve que Martin Leslie était un joueur de rugby néo-zélandais qui jouait pour l'Écosse. Drôle de hasard. En raison de l'intérêt d'Annie pour le rugby, elle le connaissait et était flattée qu'il soit venu vers elle. Les deux ont entamé une discussion et il a insisté pour lui acheter du champagne, hein, rien de moins. Annie n'était pas du tout une grande buveuse et n'avait bu qu'un seul verre. Mais la conversation animée dura la majeure partie de la soirée. Martin lui parle en détail de sa carrière de rugbyman, lui parle de ses saisons jouées, de ses blessures, bref, ils discutent pendant des heures. Annie va parler en bien de cette rencontre à son amie Maria. Mercredi, le 30 novembre 2005, Annie se dirige au centre de loisirs où elle va s'entraîner à la natation. Étrangement, l'homme qui s'est présenté comme Martin Leslie s'est présenté par hasard à la piscine et n'était pas sur place manifestement pour nager. Il n'était pas du tout à sa place et semble être venu avec la seule intention de voir Annie. Elle essaya de se souvenir de leur conversation et pensa qu'elle avait dû lui parler de sa baignade lors de la soirée au bar Mood. Mais elle ne s'en souvenait pas. Cet incident l'a complètement effrayée. Cela l'a amenée à se demander si cet homme était vraiment Martin Leslie et s'il la suivait. Car même si elle l'avait vu jouer, elle n'aurait probablement pas pu le reconnaître d'aussi près. Est-ce possible que cet homme soit la raison pour laquelle Annie se méfiait et voulait s'assurer que personne ne pouvait entrer dans ses courriels?
C'est louche déjà, là.
C'est très étrange. Jeudi 1er décembre, vers midi, Maria a appelé le téléphone portable d'Annie, mais elle n'a pas décroché. Maria savait qu'Annie était occupée. Elle devait se rendre au travail et ensuite était probablement partie nager. Elle avait également prévu aller au club de rugby Murrayfield Wanderers. Cette nuit-là, Annie a de nouveau croisé l'homme en question, Martin Leslie, et il lui a apporté une coupe de champagne. Annie n'a pas vu la boisson être versée, alors elle ne l'a pas bu. On se rappelle, là, ça ne l'a pas vu tout le processus, ouais. Elle refuse.
Smart.
Annie était intelligente, hein? Prenait aucun risque, surtout après son passage au centre de loisirs avec ce gars-là. Mais il est étrange qu'elle sente qu'elle ne peut pas faire confiance à cet homme. Elle avait également parlé de l'incident à un de ses amis dans un courriel. La dernière fois qu'elle l'a croisé au club de rugby, l'homme l'a regardé avec un regard menaçant, comme s'il était un peu hors de lui, ce qui a tout de suite effrayé Annie. Il s'est avéré que Martin Leslie n'était même pas en Écosse au moment, c'est weird, là, au moment où Annie a rencontré l'homme, se faisant passer pour lui. Il était alors de retour en Nouvelle-Zélande depuis 2 ans. Il n'a pas mis les pieds en Écosse depuis 2003.
D'où?
Donc, mais qui était cet homme mystérieux? Et s'il a fini par traquer Annie, c'est quelque chose qui n'a jamais pu être confirmé. Là.
En fait, ils n'ont jamais pu retrouver le faux Martin Leslie.
Oui, oui. Ah, qui? Jamais.
Bon, jamais.
Aïe, c'est donc bien étrange.
Puis même le propriétaire du Murrayfield Club, en fait, où elle allait voir des matchs de rugby, il a affirmé à un certain moment donné que lui, il s'en rappelle d'Annie, qu'elle y allait souvent.
Oui, oui.
Puis à un certain moment donné, elle s'est assise à une table, il est allé la voir, puis elle a dit qu'elle attendait quelqu'un, mais il n'y a jamais personne qui est arrivé.
OK.
Donc, est-ce que, je sais pas, des fois, je me dis, est-ce qu'elle hallucinait, cette personne-là? Je sais pas, là.
Oui.
C'est tellement étrange, il y a tellement de choses bizarres dans cette histoire-là que c'est dur à croire. Puis le propriétaire du bar, lui, en plus, il dit, ben, si le vrai Martin Leslie était venu ici, il ne serait pas passé inaperçu.
Ben non, c'est ça, il y a plein de gens qui l'auraient reconnu.
Oui, exact, là, tu sais. Parce que dans le monde du rugby, ils le connaissent. Donc, vraiment, vraiment fucked up, là, ce passage-là, là, ce genre de fausse personne qui tente de la catficher.
C'est étrange, mais ce témoignage-là, ben, ce Martin Leslie-là, est-ce que c'est juste Maria qui sait qu'il existe? Dans le fond, c'est vu qu'on n'a pas de traces ou quoi que ce soit, est-ce que c'est juste...
Oui, c'est via Maria qu'on le sait. Oui, exactement.
C'est encore plus étrange.
Oui. Dans une affaire qui comporte plus de questions que de réponses, Seb, là, même les théories du complot les plus étranges ont commencé à prendre forme. Puis il y en a une aussi là, dans cette histoire-là. On va l'aborder tranquillement. Est-ce possible que ce dossier-là là, soit une couverture ou qu'elle ait un lien avec les services secrets? Écoute ça bien, Seb.
Oui.
La famille d'Annie a appris qu'il y avait une journaliste américaine qui avait le même nom qu'elle, en fait, qui s'appelait Christina Borgeson. Et le nom complet d'Annie était Annie Christina Borgeson. Donc, Christina s'écrivait de la même façon avec un K, puis leur nom de famille est le même.
Oui, oui.
Donc, est-ce que ça se pourrait que la mort d'Annie pourrait être une erreur sur la personne, en fait? Là? Je vous parle un peu de la journaliste. Christina Borgeson, elle, Elle avait exprimé, reconnu, entre autres, là, pour avoir exprimé des grands doutes dans ses écrits sur le cas là, du vol TW-800. Tu sais, c'est un avion qui a explosé quelques minutes après son décollage de l'aéroport JFK là, en 96. Ah. Et tu sais, il y a 230 passagers qui sont morts dans l'explosion. Et là, il y a eu plein de théories. Là. Christina, elle a publié un documentaire sur le sujet, un film là, en 2013. Donc, c'est beaucoup après la mort d'Annie. Mais par contre, c'est depuis 96 qu'elle enquêtait sur le sujet.
Okay.
Donc, dans son documentaire, qui est très polarisé, qui n'a pas des très bonnes reviews, là, elle soutient que l'avion a été abattu par un missile. Et au moment de la mort d'Annie en 2005, ben Christina elle posait des questions un peu inconfortables sur l'incident auquel la Maison-Blanche ne pouvait pas répondre. Mais peut-être plus pertinent encore, elle travaillait également sur une autre histoire. Cette semaine avant la mort d'Annie, Christina Borgeson, elle était en Écosse, imagines-tu? Donc, il y avait Annie Borgeson en Écosse. Elle avait révélé des détails des vols secrets de restitution de la CIA transportant des terroristes vers des camps de torture via l'aéroport de Prestwick. De plus, des bombes ont été fabriquées près de Prestwick et chargées sur des avions américains à l'aéroport pour être distribuées. Mais ça, c'était fait incognito. Là,
Oui.
Et lorsque Christina Borgeson a demandé des commentaires au gouvernement américain, celui-ci a tout nié. Donc, se pourrait-il que la CIA ou un autre service secret ait tué Annie, pensant qu'il s'agissait de l'autre Christina, dans le but d'éviter un scandale, par exemple, vu qu'elle avait déjà brassé un peu de problèmes avec vol TW-800? Ben, tu sais, c'est un angle intéressant, mais selon moi, pas très réaliste en même temps. Là, la journaliste américaine, ben, tu sais, bien qu'elle soit blonde comme Annie, elle avait les cheveux un peu plus courts, elle avait environ 20 ans de plus qu'Annie, hein, quand même. Donc, si c'était censé être un coup sûr, ben, l'assassin était loin de sa cible ici. Là. Puis depuis à ce jour, en 2023, ben, Christina Borgeson est toujours en vie. Donc, si elle était la cible visée, ben, peut-être qu'elle aurait été éliminée un peu plus tard même d'une autre façon. Mais ceci dit, lorsque Maria, l'amie d'Annie, envoyait des emails pour s'enquérir de cette piste, imagine-toi donc que toute correspondance disparaissait automatiquement de son compte de messagerie en lien avec ça. C'est fou, hein? Puis apparemment, quelqu'un qui surveillait son activité en ligne, elle aussi, là, Maria, il y aurait quelqu'un qui elle croyait qu'elle était suivie, elle aussi, là. Et en y repensant, ben, on ne peut s'empêcher de s'interroger sur l'inquiétude d'Annie concernant les pirates informatiques là, lors des conversations qu'elle a eues avec son frère un mois avant sa mort. Donc, aussi farfelu qu'elle puisse paraître, la conspiration de la CIA, qui d'autre aurait la possibilité de supprimer les emails et les enregistrements téléphoniques? Maria et Gooch savaient qu'ils ne pouvaient ignorer cette théorie-là. Donc, si la CIA était impliquée d'une manière ou d'une autre, cela pourrait expliquer pourquoi elle a rencontré tant d'obstacles pour obtenir des informations auprès des forces de l'ordre en Écosse. D'ailleurs, écoute bien ça, toute demande d'accès au dossier sur la mort d'Annie est refusée et son dossier est carrément classé top secret dans les deux pays. Parce qu'ils ont peur que ça nuise à des situations diplomatiques, en fait. Donc là, c'est genre, mais là, on parle d'un... officiellement d'un suicide par noyade. Il n'y a pas histoire à faire de documents top secret. Là. C'est quoi tout ça?
Je crois que c'est incohérent. Hein.
Donc, c'est loin de calmer les adeptes là, des théories du complot. Est-ce que les gouvernements suédois ou écossais ont quelque chose à cacher dans cette histoire-là? Donc, tu sais, depuis Seb, c'est un peu la fin de la chronologie. C'est-à-dire que il n'y a aucune explication qui est claire au sein de la mort d'Annie Borgeson. Il y a eu d'autres développements au fil des années. Là. Entre autres, il semblerait, c'est très intéressant, il semblerait qu'Annie avait de l'ADN de source féminine sur ses mains au moment de sa découverte. Ce qui veut dire que cet ADN s'est sans doute retrouvé sur elle assez récemment là, pour qu'il y en ait encore sur les mains après faire remuer par l'eau. Donc, soit que c'est peu avant sa mort ou encore juste après. Puis aussi, théorie intéressante, la technologie a permis de voir que des micro-organismes là, appelés diatomes se sont retrouvés dans ses tissus corporels. Ce qui est très étrange, c'est que les diatomes retrouvés, c'est comme vraiment des micro-organismes qu'on peut voir au microscope, là, sont ceux qu'on retrouve habituellement en eau douce, alors qu'elle s'est noyée dans l'eau salée. Donc, il est possible toutefois que ces diatomes d'eau douce se soient retrouvés là par voie buccale, par exemple qu'elle aurait bu de l'eau là, en Écosse, puis qu'il y aurait eu des micro-organismes. Mais quand même, c'est bizarre. Pourquoi on n'a pas retrouvé d'eau salée, tu sais, ouais, oui. Alors qu'elle elle s'est fait ramasser par la marée, tu sais. Autre détail intéressant survenu, en fait, dans des développements tout récemment, là. Encore une fois, la journaliste Hazel Martin de la BBC a testé quelque chose d'ingénieux avec un océanographe sur la plage de Prestwick. Écoute bien ça, Seb. Ils sont allés à l'endroit, tu sais, où le témoin avait aperçu quelqu'un observer la plage au loin. Oui, là, oui, tu sais. Puis ils ont marché dans l'eau jusqu'à ce qu'il soit à une hauteur raisonnable pour se noyer, là, quand même un petit peu profond. Puis ils y ont déposé un mannequin de la taille et du poids d'Annie, en plus d'un sac et un manteau, comme elle, là, dans le fond, ouais, comme ouais. Ils ont retrouvé près de son corps, là, une centaine de mètres plus loin. Mm-hmm. Donc, les gens avaient des doutes sur comment les objets s'étaient tous retrouvés si près là, les uns des autres après avoir été largués si loin au large pendant des heures, tu sais. Donc, ils ont largué le corps aux mêmes heures où Annie aurait été aperçue, environ 16h30. Et une heure plus tard, le corps était déjà de retour sur la plage, à découvert dans le sable. Donc, une heure plus tard, il était déjà ramené. Donc, l'expérience semblait non concluante. Par contre, l'océanographe, il dit, « Ben écoute, on va laisser... comment dire, la chance, on l'a retrouvé le lendemain matin. Ouais. On va laisser le corps sur la plage là, okay. Et on va revenir demain. »
Ah oui, pour voir, ouais.
À l'heure où Annie a été découverte. Juste pour dire là, qu'ils font le test au complet. Puis à leur stupéfaction, le lendemain, le mannequin est retrouvé exactement là où Annie a été retrouvée. Okay. Puis ses affaires, même s'ils étaient très dispersées dans l'eau, sont autour d'elle, exactement comme Annie. Ça veut dire qu'en fait, il y a une espèce de courant constant sur la plage de Prestwick qui redirige en fait tous les gros objets vers un coin de la plage, puis les déchets, puis les cochonneries, tout ça.
Genre d'attraction.
Puis avec la marée haute en soirée, ben son corps a été repris par la mer et ramené sur la rive à quelque part, sans doute au petit matin, le 4 décembre. Donc, c'est le pire, c'est que cette théorie de suicide-là est physiquement possible.
Ben, c'est ça. C'est,
en fait, c'est, moi, j'en revenais pas quand j'ai vu les résultats de ce test-là.
Oui,
okay.
Ah oui, là, je suis...
Donc, c'est fou, hein?
Oui, c'est étonnant.
Donc, c'est dur de se faire une tête. Est-ce qu'on parle d'un suicide ou d'un meurtre? Ou, tu sais, c'est dur. Toi quel est ton avis là-dessus, sur cette histoire-là?
Ben, il y a un point que je voulais revenir. Tu sais, les courriels qui s'effaçaient automatiquement. Là, mm-hmm. Étant donné qu'elle mettait tous ses mots de passe dans son genre de chemise, là, de son porte-document, les gens qui puis ce porte-document-là n'a jamais été retrouvé. Ouais. Tu sais, je me disais que soit son assaillant l'a amené avec lui, puis c'est peut-être lui qui surveillait les hotmails, tu sais, tout le temps, puis il supprimait. Parce qu'il faut se rappeler qu'aussi, maintenant, là, aujourd'hui, là, s'il y a deux personnes connectées à deux endroits différents, sur Gmail, il te le dit. Là, tu sais, une personne est connectée à tel endroit, non, non, mais à cette époque-là, on n'avait pas ces signaux-là. Donc, puis il n'y avait pas de double facteur d'authentification, tu sais, qui pouvait tout bloquer ça. Fait qu'on dirait que les courriels, mais les appels téléphoniques, ça, j'étais un petit peu plus. Ça demande un peu plus de connaissances, de contacts pour les effacer. Mais on dirait que le Hotmail, je me disais que c'est peut-être l'assaillant qui les surveille. Mais, tu sais, encore là. Mais là, avec ce que tu amènes, comme c'est. Ben, en fait, il y a deux choses. Le genre de bactéries, l'eau douce, ils l'ont-tu tué ailleurs pour la ramener
oui,
là?
Oui, ça, c'est une théorie aussi. Est-ce qu'elle aurait été noyée ailleurs ou tuée ailleurs, puis déposée sur la plage? Oui.
Exact, c'est ça que je sais pas. T'sais, on ne sait pas le corps, comment il était boursouflé aussi. T'sais, je ne sais pas après combien de temps que le corps absorbe de l'eau aussi. Il y a tous ces éléments-là. Je te dirais que moi, je crois pas du tout au suicide. Là, même si, si c'est un suicide, il y a eu vraiment un élément déclencheur à l'aéroport où elle a eu une grande déception là, mm-hmm. pour t'amener dans un... Mais si elle était déjà depuis plusieurs semaines dans un état d'esprit dépressif, ça se peut qu'un élément déclencheur provoque tout cet effet de chaîne-là, puis qu'elle se soit suicidée, là. Mais c'est trop bizarre, tu sais. En fait, ce qui est trop bizarre, ben c'est toutes les cachotteries, là, tu sais, de politique, puis tout ça, c'est ça qu'on dirait qu'il y a quelque chose en arrière de ça. Une erreur sur la personne, mais autre même, pas la journaliste, mais une autre personne... est-ce que son stalker était quelqu'un qui travaillait pour le gouvernement? Ouais. Tu sais, il y a tout ça que j'ai en tête. Même, je me disais, j'allais plus loin dans mes réflexions un peu folles, étant donné qu'elle parle cinq langues, tu sais, peut-être qu'elle était... et qu'elle avait besoin d'argent. parce qu'elle travaillait pas et tout ça, je me suis dit, elle s'est-tu embarquée dans quelque chose, tu sais, même quelque chose de géopolitique, tu sais, des fois, ils ont besoin de gens pour s'infiltrer ou quoi que ce soit.
On dirait
que
j'avais pensé de la drogue.
Oui, exact. J'avais un peu pensé à tous ces scénarios-là, étant donné qu'ils étaient un peu à court d'argent, mais je sais pas, c'est tellement bizarre, tu sais, tout à l'aéroport et tout ça, tu sais, ça, ils ont-tu, comment dire, est-ce qu'ils ont refait, ils ont pas refait, quand le corps a été ramené deux semaines après, ils ont-tu refait une autopsie? Parce que ça, on dirait que c'est pas clair. Je sais pas si toi, t'as vu quelque chose comme ça.
Ouais, ils ont fait une genre analyse, là. Mais c'est, je pense que, tu sais, il était trop tard pour les analyses toxicologiques.
Oui, c'est ça,
ou,
c'est sûr. Ouais.
Je suis pas sûr que ça a été concluant, là.
Non,
mais
hein?
Oui, ils ont fait une autopsie au retour. Okay. C'est là qu'on a découvert les blessures.
Oui. OK. Mais c'est parce que je me demandais s'il y avait pas d'autres éléments qui aurait pu ressortir, mais non, c'est très, très étrange. Toi, comment tu vois tout ça?
Ben, c'est bizarre. Moi aussi, je trouve qu'il y a plus de questions que de réponses. Moi, de plus en plus, en fait, quand j'ai vu l'analyse des courants marins, je me suis dit, ah ben, je pense que c'est un suicide. On dirait que j'ai pensé à ça, tu sais, avec les signaux qu'elle envoyait. Tu sais, elle avait déjà un début de paranoïa en pensant qu'elle était suivie. Est-ce qu'elle l'était réellement? Bon, peut-être, mais bon, on en a vu beaucoup là, des cas de gens qui croyaient être suivis. La plupart ne l'étaient pas. Donc ça, j'y crois moins, tu sais. Elle n'avait pas beaucoup de raisons d'être suivie, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'elle avait un stalker, pour des raisons amoureuses. Elle n'était peut-être pas suivie par la CIA. Mais j'ai l'impression de voir les derniers témoignages comme quoi, justement, avec ses colocs, ça allait pas si bien. Elle avait stalké quelqu'un d'autre. Des fois, je me disais, est-ce que c'est Annie la stalkeuse?
Oui.
Mais qu'elle raconte d'autres histoires à ses proches, comme quoi elle se fait stalker, tu sais. Mm-hmm. Est-ce que ça se peut qu'elle ait un petit conflit de personnalité à ce moment-là, tu sais?
Oui.
Je me suis posé aussi la question sur est-ce que Martin Leslie, c'est quelqu'un qu'elle imaginait ou c'était quelqu'un qui était vraiment là?
J'y ai pensé.
Est-ce qu'il y a des témoins qui confirment qu'elle a pris un verre de champagne avec? Mm-hmm. On dirait que tout est possible dans cette histoire-là. Puis je me disais à quelque part, peut-être que ça peut être symbolique, peut-être qu'elle a tenté de rentrer chez elle. Qu'elle n'a pas réussi, peut-être que 300$ qu'elle a réussi à trouver, je ne sais pas comment elle l'a trouvé, mais c'est un mystère là, comment elle l'a trouvé, mais peut-être que ce n'était pas suffisant. Puis des fois, quand on est en dépression ou que ça va mal, il suffit d'une goutte pour faire tout déborder.
Exactement.
Puis moi, je me disais que t'sais, c'est une nageuse, elle se suicide dans l'eau, il y a peut-être un symbole.
Ouais, c'est vrai.
Mais je me serais attendu peut-être à une note de sa part. T'sais, c'est quelqu'un qui était quand même artiste, proche de ses émotions.
Extraverti.
Oui, je ne me serais pas attendu à un suicide aussi froid que ça. Mais on dirait que je peux y croire. Mais c'est bizarre. Est-ce que ça peut être un accident aussi? T'sais, on n'en a jamais parlé. Est-ce qu'elle aurait pu tomber sur la plage, faire un arrêt cardiaque sur la plage? Je sais pas, mais...
C'est des traces de doigts dans le cou qui me mélangent.
Oui,
aussi. Qui me biaisent un peu.
Mais il y a tellement de choses qui brouillent les pistes.
Ouais.
C'est vraiment dur de se faire une tête solide sur le sujet, là. Et vous, les distordus, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous-le. Pour nous, ça a été une histoire quand même assez passionnante, malgré tout, malgré le fait que c'est tragique et triste.
Oui, oui.
C'est une histoire quand même assez captivante qui pourrait se résoudre dans les prochaines années avec la technologie. Il y a eu avec des tests d'ADN ou autre. Mais bon, histoire tragique. Mais on veut savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plus du côté de la thèse du suicide, du meurtre ou encore d'un accident ou autre? Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire-là. Si vous avez des infos à partager, faites-le aussi. Vous savez où le faire. On est partout sur les réseaux sociaux. Vous savez où nous trouver sur Twitter, sur TikTok aussi. Nos Disto News sont là.
Yes.
Sur Instagram, au distorsionpodcast.com, sur YouTube aussi. On est partout. Et puis, vous savez où nous trouver. Aussi, pour nos membres Patreon, sachez qu'on a un after show juste après celui-ci. On voulait garder la thématique de corps retrouvés sur la plage. Donc, on est allé avec les pieds retrouvés sur la plage de Tofino au fil des années. Un mystère assez bizarre.
Ouais.
Donc, on s'en reparle dans l'after show. Et on ne peut quitter sans remercier nos chers membres Patreon Seb qui sont comme un peu les actionnaires de Distorsion.
Exactement. Donc, je remercie nos premiers actionnaires. Patricia, Anna Miou, Mister Belmont, Florian Ozor et Philèle G.
Un gros shout-out à Sarah T, à Delphine C, à David G, à Jason T. et à Virginie A.
Je poursuis le high five à Benjamin, à Jujube, miam, à Céline V, Laura LG et à Carla M.
Un gros câlin à Mickey Lem 14, à Débauche, à Gabis, à Alexis G et à Gaming D.
Un shout-out à Peggy L, Serge Le Psycho, Pierre-Luc N, Juliette et Nathalie D.
On ne pourrait faire ce show sans l'aide de Sophie Junior C, de Conzo L, de Marie-Lou R, de JM M et de Maxime T.
Je poursuis avec le mystérieux Damien, Josiane M, Julie C, Sifosis et Zénon ND.
Beaucoup de kudos à Audrey L, à Shady Cash, à Audrey C, à Sheria F et à Géraldine H.
Je poursuis Théo Le Chat, Zompa, Feus, Julie R et Sarah C. Merci à vous.
On a de plus en plus des noms originaux dans nos
oui,
Patreons. Pour terminer, gros câlin à Michael G, à Mathieu, à Loralie R, à Mr. Matapo et à Raphaël SL. Merci à vous.
Oui.
Et pour terminer, aurais-tu un petit mot de la fin pour nous ce soir?
Si quelqu'un se présente à vous comme étant un joueur de rugby ou encore un joueur de hockey connu, envoyez-nous tout de suite un message pour qu'on analyse tout cela pour vous.
Oh oui!
Soyez prudents.